Soucis palestiniens, tracasseries ukrainiennes, jérémiades agricoles, obstination populaire et spectre éco-séparatiste. Quel business school pour Timéo après le bac? Quel panais pour Camille qui entre en CM1? Autant de sujets lourds que nos invités de ce soir se proposent d'éviter. Car il faut aussi savoir se divertir, rêver. Une fois n'est pas coutume, parlons football. Alors me direz-vous, le football, qu'est-ce? Que pourrions-nous tirer de cette pratique populaire? Chers auditeurs, chères auditrices, je vous propose ce soir de mieux cerner le phénomène. Imaginez qu'au Blue Green Rennes Saint-Jacques, nous laissions nos clubs dans le coffre de la Tesla. Conséquemment, nous serions contraints de péter la balle avec les pieds, et pour ce faire, il conviendrait judicieusement d'en augmenter la taille. Dès lors, me direz-vous, se poserait le problème de l'insérer dans de si petits trous. Nous pourrions forcer avec un peu de détermination à l'image de notre fidèle Gérald. Mais pourquoi ne pas plutôt remplacer ces orifices minuscules par une grande cage, assez vaste pour que l'on puisse y faire pénétrer autant de balles que désirait? Ensuite, comme nous l'évoquons régulièrement au lounge, cette végétation, reconnaissons-le, nous a toujours profondément ennuyés, probablement autant que l'inutile relief paysager. En vertu de cela, pourquoi ne pas envisager par le truchement d'un réarmement économique porté par notre industrie du bâtiment qui pourrait, sous l'impulsion de l'État, libérer le green de ses appendices, enfin aboutir à une surface parfaitement plane et rectangulaire? Bien, maintenant, plutôt que de péter chacun son tour à la calele pour ainsi dire, admettons que nous constituions deux équipes qui s'affronteraient simultanément en vue de détenir la grosse balle en question et ainsi disposer de l'opportunité exclusive d'insertion dans la cage susmentionnée. Et n'en déplaise à certains, je propose de surcroît d'abandonner les petits véhicules motorisés dédiés au déplacement sur site. Vous répliquerez à juste titre que la démarche en deviendrait harassante au point que nous suions. Très certainement. Elle a pourtant, chers amis, un effet positif indéniable. En premier lieu, débarrasser le green des personnes en surcharge pondérale, lente, pataude, qui entame l'image de notre club. Et enfin, et c'est probablement là le trait de génie, il est question de déléguer l'effort. Eh bien oui, évidemment, nous n'allons pas galoper dans l'herbe comme des animaux. Déléguons la tâche à des individus nord-africains ou d'autres pays en voie de développement, le cas échéant à des compatriotes de rangs inférieurs, que l'on puiserait ça et là dans des établissements publics ou des UP, que sais-je, à condition bien sûr qu'ils montrent une aptitude physique suffisante et manifestent un goût pour la compétition, cela va de soi. Et bien entendu, nous resterions propriétaires de l'ensemble. C'est aussi cela le football.
faveur. Et dans le nord, elle a changé pour amener une présence. Dans ma part, nous, elle a changé. Car c'est sa part, son poisson. I would like to be clear. In the kingdom of the right, I would like to survive. Oh, I'm living in a suburb. They don't know it is until. Nothing's about what is now. I want to never live in the sweet but kingdom. I would like to fly.
Bonsoir à toutes et tous, bah, il est vendredi, écoutez, 19h passées de quelques minutes, petit Larsen Gwendo à l'appareil en compagnie de notre cher Guillaume, c'est dans Frisson sur Canal B. Salut Guillaume, comment tu vas?
Salut, je vais bien.
Tu vas bien, notre petit Ludo et son Larsen de bienvenue.
Ouais, bah merci, bonsoir merci. Ludo, bonsoir à tous.
Bonsoir à tous. Ce soir, bah, vous l'aurez peut-être compris avec l'édito de notre cher Guillaume, on fait un frisson spécial foot et on reçoit pour l'occasion deux auteurs. Donc la personne de Jacques Josse à ma droite et Vivien Petit à ma droite également.
À ton extrême droite.
À mon extrême droite.
Je sais pas comment je dois le prendre.
Petit trait d'union entre ces deux auteurs d'être assemblés sur la même maison d'édition Mediapop, si je ne dis pas de bêtises, qui regroupe donc une collection qui se propose de faire le tour des clubs de foot de France, si toujours pareil, je ne dis pas de conneries. Avant de commencer à parler un peu des deux ouvrages qui sont les vôtres, donc Ciel Marine et Des Escapades Rouges et Noires, on propose déjà de dénoncer les deux petites vieilleries qui étaient de ton choix, il me semble, Vivien.
Ouais, c'est ça. Bah, c'était deux morceaux du Havre, évidemment.
Parce que oui, on va écouter ce soir que des sons du Havre.
Exactement. Il n'y aura pas vos trucs de René, de New Wave ou de je sais pas quoi. Ouais, j'ai concocté une playlist 100% havraise. Et le premier morceau qu'on a écouté, bah, c'était la version de Little Bob Story, le premier groupe du grand Little Bob. C'était donc Lucille, la reprise de Little Richard. D'ailleurs, Little Bob, donc le chanteur havrais, a pris son nom de scène Little Bob en hommage à Little Richard.
Et aussi parce qu'il n'est pas très grand.
Aussi, évidemment. D'ailleurs, c'était un footballeur amateur, Little Bob, qui jouait dans le club de Frilos et qui a arrêté sa carrière du fait de sa taille, notamment.
Merde.
Mais il s'est consacré au rock avec quand même un certain succès et qui a été quand même très très important dans l'histoire du rock. Enfin, il était vraiment précurseur en étant influencé par à la fois le blues rock, le blues, le rock noir américain comme Little Richard. Et il a inspiré énormément de groupes ensuite, notamment au Havre, dont le second qu'on a entendu qui était Ox, qui est un groupe un peu symptomatique de la vague punk qui a eu au Havre fin des années 70, début des années 80. Donc là, c'était le morceau Suburb de Ox Parce qu'en fait, Le Havre, du fait notamment de la proximité avec l'Angleterre, il y avait beaucoup de groupes anglais qui venaient jouer au Havre. Dr. Feelgood, par exemple, qui est venu plusieurs fois, qui a influencé énormément de Havrais et qui a poussé un certain nombre d'entre eux à constituer leur groupe. Et même, par exemple, j'avais interviewé... parce que dans le livre que j'ai écrit donc, sur le club de foot du Havre, il y a pas mal de digressions, notamment sur l'histoire de la musique et du rock au Havre. Et j'ai interviewé, par exemple, une personne de l'époque qui me disait que, en fait, à l'époque, les Havrais se sentaient plus proches de Londres que de Paris, en fait. Ils prenaient le ferry et dans le billet, il y avait une navette jusqu'à Londres. Ça revenait moins cher et ça semblait plus simple d'aller à Londres qu'à Paris.
Et il y avait un bar en plus sur le ferry.
C'est vrai, ouais, il y en avait plusieurs, je pense. Il y avait aussi les bars anglais qui devaient pas mal les influencer. Mais donc, ouais, et en fait, ça a beaucoup joué sur l'histoire de la musique au Havre, en fait, où le rock à vrai a été très, très influencé par le rock anglais, beaucoup plus que par le rock français, par exemple. D'où ma blague sur la New Wave, par exemple.
Oui, parce qu'il fallait peut-être le préciser, ton livre, Vivian, donc c'est effectivement sur leur, comment on dit, le HAC, le HAC.
Le HAC.
Donc,
le Havre Athletic Club.
Exactement, et par contre, toi, Jacques, tu t'es intéressé à plus près de nous au Stade Rennais.
Oui, un peu par hasard d'ailleurs. C'est le directeur de la collection qui m'a contacté, qui m'a demandé si je voulais écrire sur le Stade Rennais. J'avais vraiment pas l'idée d'écrire un jour un livre sur l'équipe de Rennes. Et puis, je lui ai demandé un petit délai de réflexion quand même. Et le lendemain, ma décision était prise. J'ai pensé à mon père, qui lui, sans avoir jamais mis les pieds au stade de la Route de l'Orient à l'époque, écoutait les matchs à la radio. Je me dis, il était décédé. Je lui ai dit, je vais lui rendre hommage comme ça. Voilà comment que
c'est mignon.
À la lecture de ton livre, moi, j'ai pas eu du tout l'impression que c'était un hasard qu'on te sollicite, toi. Alors, on reviendra sûrement sur les singularités de vos livres respectifs, mais le tien, Jacques, pour moi, en tout cas, en tant que lecteur, c'est peut-être le fait que, finalement, tu ne vas jamais voir.
Jamais.
Ni à la télé, ni au stade.
Et donc, fait un point commun.
Voilà. Et tu parles effectivement énormément de l'influence de ton père, parce que c'est lui qui écoutait, comme tu le disais, à la radio, alors qu'il n'était pas rennais, qu'il n'habitait pas Rennes. Et toi, tu as suivi un peu la filiation.
Oui, j'ai suivi. Hein. Mon père, il regardait les résultats sur le journal, il regardait la composition des équipes. Et à l'époque, quand les journalistes sportifs commentaient un match, ils citaient juste les noms, en fait. Ils disaient Lavo, l'oncle, Rodiguero, Asensio. Et donc, il fallait suivre...
Il fallait savoir quel poste
il fallait savoir
les joueurs
où ils étaient sur le terrain. Mais c'est comme ça que ça se faisait. Et lui, il avait la petite fiche et les joueurs, comment ils étaient disposés sur le terrain. Et donc, il voyait comment le ballon circulait. Et j'ai fait la même chose que lui, en fait. Je me suis mis à écouter à la radio... Et ce que je voulais dans ce livre, c'est de parler de ceux qui sont supporters, mais qui ne vont jamais au match de foot.
Parce que ouais, c'est important de préciser que c'est ton cas quand même. Ouais. Tu es assez incollable sur l'équipe de Rennes, contrairement à moi. Moi, je suis collable sur toutes les équipes de toutes les villes du monde. Mais tu es un spécialiste, tu es un vrai supporter. Tu n'y vas jamais, mais tu es un vrai supporter.
Je suis un vrai supporter. Je n'y vais pas pour une simple raison aussi, c'est que je souffre un peu de agoraphobie. Et je suis mal dans la foule. Donc ça a très vite calmé mes ardeurs si j'en avais. Je suis allé une fois au stade.
Mais tu pourrais regarder à la télé par contre.
J'ai regardé à la télé, mais bon, je m'ennuie un peu en fait.
Ok.
Seul chez moi.
Donc, agoraphobe et téléphobe.
Téléphobe, pas vraiment. Ça m'arrive de regarder, mais pas des matchs.
Okay. On aime ce genre de blague. Mais pour ça, une sorte
je regarde pas les matchs.
On pouvait parler justement des traits d'union, des points qu'on pouvait faire entre vos deux ouvrages.
Ouais,
tu voulais finir ?
Non.
Ça me fait penser à un des passages de ton livre, Vivian, où justement tu disais, c'est pourquoi lorsque j'imaginais à 10 ans le travail que je pourrais exercer une fois adulte, dans l'hypothèse où je n'arriverais pas à me faire employer comme journaliste de presse écrite, la possibilité de devenir commentateur sportif à la radio. Dans le but de m'entraîner, je coupe le son de la PlayStation et je deviens commentateur de mes propres matchs. J'avoue que j'avais presque envie de te demander, même à vous deux peut-être, de nous faire un espèce de simulacre de commentaires sportifs. Puisque
c'est vrai que les commentaires sur FIFA, ils sont lamentables. Moi, je les mettais en allemand parce que je ne comprends pas l'allemand et au moins, ça me saoulait moins. Quoi.
Quand j'étais... en plus... c'était vraiment beaucoup plus mauvais à l'époque, les commentaires.
Oui, en plus, oui,
à la fois les commentaires sur FIFA et même les commentaires télé. Enfin, l'archétype, c'est par exemple Thierry Roland, qui soit donnait le nom du joueur qui venait de toucher la balle, mais limité à ça, soit de temps en temps faisait une blague sur le nom ou l'origine des joueurs.
Vous vous souvenez de l'épisode des Coréens ?
Oui, il y a deux lits, on va pouvoir faire une chambre.
Ouais. En fait, l'équipe coréenne, ils sont plusieurs à s'appeler Lee quelque chose, donc ils y comprennent rien, les commentateurs, c'est Lee qui passe la balle à Lee, et au bout d'un moment donné, il y a Thierry Roland, c'est ça, qui dit, à tous ces lits, on va pouvoir faire une chambre.
Oui, il n'y avait pas que ça, quoi. Il y a eu bien pire, oui.
Il était raciste en plus.
Mais il y avait même des moments où il y avait beaucoup d'antillais dans l'équipe de France, et il disait, dès que l'équipe de France jouait contre une équipe africaine, il disait, ils jouent un peu contre leurs cousins, etc.
Ouais.
Et donc les commentaires de l'époque, c'était quand même beaucoup ça, parce qu'en plus il n'y avait pas une diversification des chaînes, etc.
Alors que maintenant avec Pascal Pro, c'est beaucoup plus clair.
lui-même est passé du journaliste sportif à je sais pas quoi, à l'éditorialisme au propos de comptoir, mais dans la télé, quoi.
J'avoue qu'on aurait pu le mettre dans un sac à patates avec Philippe Candeloro et puis secouer tout ça un peu contre un mur, ça aurait peut-être pas fait de mal au sport aux éditoristes.
Mais donc à l'époque, j'étais beaucoup plus fasciné par les commentaires radio, en fait, justement,
mal. Hein.
Ouais. Et donc, quand j'étais gone, donc c'était début des années 2000, ça m'était même arrivé, par exemple, de regarder un match à la télé, mais en coupant le son de la télé, en mettant celui de la radio.
Oui. Par contre, il y a un petit décalage dans le temps.
Oui, c'est pour ça qu'après, j'avais arrêté de le faire. Mais parce qu'en fait, c'est pas la même chose de céder à la facilité en donnant juste le nom des joueurs, ou alors de chercher à décrire ce qui se passe, ce qui pousse évidemment à regarder le match différemment, parce que ça pousse le journaliste à analyser tactiquement, à analyser ce qui se passe dans le temps, dans l'espace, etc., pour en rendre compte, alors que face à la télé ou face à l'image, on peut, si on doit commenter ça, beaucoup plus céder à la facilité, juste donner les noms ou faire 2-3 blagues, etc. J'essayais de singer ça quand je jouais à la PlayStation, mais sans grand succès quand même.
Et peut-être ce qui relie vos deux livres, c'est quand même l'influence paternelle. C'est vos pères respectifs qui vous ont mis là-dedans. Vous ne parlez pas du tout de vos mamans dans les bouquins.
Si, moi j'en parle un peu.
Ouais, enfin, elle est à côté, dans
justement,
la chambre à côté.
Justement, c'est ce que j'allais... C'est un des points, comme Guillaume, j'ai relevé à peu près la même entrée de la question de l'apprentissage. Il y a peut-être une formulation qui m'a un peu plus questionnée, même si j'aurais pu m'en douter dans ton bouquin, dans ton livre, pardon. Vivian, c'est...
Tu peux dire que c'est un bouquin, je le prends pas mal.
De toute façon, ça reste un bouquin. Et où tu parles de la question du rapport au football comme un apprentissage de la masculinité.
Ouais. Oui. En plus, quand je dis ça, c'est pas du tout apologétique ou sans recul, sans critique. Enfin, je dis ça notamment sur le moment où je suis enfant, où mon père m'amène au stade avec ses collègues uniquement des hommes, etc. Dans un contexte où, encore plus que maintenant, il y a quand même pas mal de commentaires misogynes, etc. Dans le stade, il y avait une seule arbitre femme qui était arbitre de touche à l'époque. Maintenant, il n'y en a pas énormément, mais quand même un peu plus, quoi. Et les gens se retiennent un petit peu plus maintenant qu'à l'époque. Et voilà, donc je parle par exemple des commentaires plus misogynes les uns que les autres. Et de fait, je pense, oui, que plus ou moins consciemment, par exemple, mon père me proposait d'aller au stade à la fois parce que inconsciemment, guidé par tout un tas de choses, de manière plus ou moins consciente, je cherchais à ressembler à mon père parce que c'était mon père et que j'étais un petit garçon. Enfin, c'est ça qui se joue, quoi. Quand j'avais 10 ans, je commence à m'intéresser au foot. Il me propose d'aller au stade avec ses collègues hommes, etc. Et à ce moment-là, comme souvent, et encore plus quand on est enfant et quand on est dans un espace qu'on ne connaît pas, on se demande ce qu'on doit faire et donc on imite un peu les gens, quoi. Et donc voilà. Et le récit que j'ai fait, c'est aussi un peu ça. C'est-à-dire que c'est pas seulement sur le foot que j'ai écrit, c'est aussi sur le rapport à la ville, le rapport à la famille, Par exemple, je suis pas sûr que j'aurais écrit ce livre-là sur le Club du Havre si je vivais encore au Havre. Une des questions quand même qui traverse le livre, je crois, parfois en filigrane, parfois de manière implicite, c'est comment on devient ce qu'on est et qu'est-ce qu'on décide de garder ou non de son enfance, par exemple. Je dis par exemple dans mon rapport à la ville du Havre, dans mon rapport au Club du Havre, il y a eu des allers-retours, quoi. Je dis qu'à l'adolescence, par exemple, j'avais beaucoup moins envie de ressembler à mes parents, par exemple. Que c'était une période assez conflictuelle, ce qui n'est pas très original. Qu'à ce moment-là, par exemple, j'allais plus souvent à des concerts de rock avec des amis parce que j'avais envie de développer ma propre personnalité, mes propres centres d'intérêt, etc. Que par ailleurs, ce qui fait écho à ta question sur la masculinité, mon père s'alarmait peut-être de ce qu'il percevait comme un manque de virilité d'après ses codes.
Ouais, mais peut-être le Havre est en Ligue 2 à ce moment-là, non ?
Oui, oui, oui.
S'ils étaient
oui.
en Ligue 1, t'aurais peut-être
ouais,
été
bah...
plus assidu au match.
Oui, non mais...
Enfin, division 1, on disait à l'époque.
Ouais, ouais, ouais. Non mais j'en parle aussi. Ouais, c'est un ensemble de trucs. En plus, ça s'est ppas fait consciemment à l'époque. C'est une réinterprétation a posteriori. Donc
si
c'est un ensemble de choses.
S'ils étaient en Ligue 1, t'aurais peut-être eu moins de problèmes de virilité.
Tu serais pas un très bon psychanalyste. C'est un peu trop rapide et simpliste. Mais donc ouais, donc je donc évidemment que le il y a une question de transmission familiale dans tous les sujets, dans tous les centres d'intérêt, soit parfois de contre-pied, soit parfois de distance, etc. Et donc le livre ou mon rapport aujourd'hui à la ville du Havre, à la famille, au foot, etc. C'est aussi ça, quoi, genre une alternance entre proximité et distance.
Et peut-être ouais, pardon. Je t'en prie,
non, c'était juste pour faire le lien encore une fois entre vos deux approches justement de ce rapport à la question de la filiation et de l'enfance. Toi, Jacques, dans ton livre, tu cites notamment Georges Aldas qui en préambule de son livre La légende du football dit l'engouement de la plupart des hommes pour le football est inconcevable sans le retour à l'enfance.
C'est vrai. Je pense pour avoir discuté avec pas mal de supporters au boulot en particulier où il y avait des commentaires justement de ceux qui n'avaient pas vu le match. Et qui en parlaient comme s'ils l'avaient vu, tous parlaient de leur père aussi, de l'influence qu'avait eu le père. C'était vraiment un univers masculin, hein, le foot. C'est vraiment, au départ, c'était vraiment ça. Hein.
Toujours un peu, j'ai l'impression.
Et un peu moins peut-être aujourd'hui, mais je pense que c'est bon, hein, aujourd'hui, parce qu'il y a le football féminin, il y a ça bouge un peu, mais pas comme ça devrait le faire. Hein. C'est le rapport à l'enfance. C'est là qu'on est bercé par nos ce que nos pères souvent et nos mères quelquefois. Hein, parce que ma mère, je lui dois beaucoup aussi. Je suis en train d'essayer d'écrire sur elle. Je suis bloqué en ce moment, mais bon.
Et est-ce qu'elle avait un lien justement avec cette culture-là autour de justement de la dimension du sport
Non, ça n'intéressait pas du tout. Elle avait tellement de boulot avec ses 6 enfants et puis son travail à faire à côté à la poste et le père qui était malade. Enfin bon, c'était compliqué ma vie d'enfance, hein, et d'adolescence. Et donc elle était très matérialiste alors que mon père était vraiment un rêveur, quoi, hein. Lui, il rêvait quand il était dans son lit en train d'écouter le foot. Il y avait du rêve, hein. La tête était traversée par pas mal de choses. Ouais.
C'est quelque chose qui est assez beau, que tu décris, que tu dépeins d'ailleurs très bien dans ton livre, justement, cette capacité à voyager de façon statique depuis son fauteuil en train d'écouter le match. Disons que je crois que ton père n'a voyagé qu'une seule fois dans sa vie pour aller voir au final sa sœur ou sa belle-sœur,
sa belle-sœur à Toulon. Mais mon père, je peux en parler hein, 2 minutes, parce que c'est quand même lui qui est à l'origine de ce livre. Mon père, il voulait être marin. Il avait été à l'école de la marine, son père était capitaine, et donc lui il voulait être comme son père, et il a eu une encéphalite mal soignée quand il avait 17 ans, et il a été interdit de marine, en fait. Il n'a pas pu faire le métier qu'il voulait, alors qu'il voulait, il aurait voulu voyager, c'était vraiment son grand rêve. Donc j'ai écrit un livre sur lui qui s'appelle Débarquer, parce qu'il a été débarqué avant même d'avoir embarqué, en fait. Et le rêve a toujours été dans ses pensées, dans sa personnalité. C'était un grand lecteur et il avait une sorte de facilité comme ça à se retrouver ailleurs tout en étant chez lui. Et même nous, quand on regardait la nuit, les étoiles avec lui, il nous parlait des étoiles. disait, vous savez que les étoiles ont leur constitution chimique ressemble à celle du sang des êtres humains, ce qui est vrai. Et donc il nous disait des choses comme ça, et nous on était gamins. Bon, vous prenez ça, quoi. Pareil, quand on allait voir les saumons qui remontaient de la rivière, qui revenaient de la mer en rivière, pareil, ils nous parlaient des saumons. Et ils nous parlaient aussi du radar qu'ils avaient, et qui leur permettait de savoir, par les étoiles, où ils étaient, du Grand Nord jusqu'à la rivière des Côtes d'Armor, tout en étant sous l'eau. C'était étonnant. Et donc, voilà mon père tel qu'il était, quoi. Et le foot, à côté de ça, c'est pas grand-chose. C'est juste 22 joueurs qui courent après une balle.
Là, on est d'accord.
Mais, bon. Mais pour lui, c'était autre chose. Pour lui, ça dépassait ce phénomène-là, quoi. Hein. C'était plus irréel, voilà.
C'est dingue le contraste ou le grand écart quand on t'entend justement parler de la personne qui était ton père, cette dimension, on va dire.
Et Franck Ribéry. C'est vrai que c'est...
Alors, tu vois, j'avais même pas vu la marche avant l'horreur, mais effectivement, je me disais entre cette dimension justement de rêverie, d'anti-consumérisme quelque part, ou en tout cas qui n'était pas franchement dans ce qu'on peut appeler une forme de capitalisme d'expérience pour ce qui est le voyage. Et est-ce que toi, tu pourrais décrire notamment Vivian en parlant de l'actionnaire majoritaire du HAC, donc Vincent Volpe.
Volpe,
pardon.
Il est d'origine italienne.
Et je me dis, mais quel grand écart justement entre toute cette culture du fric et de la grosse entreprise, industrie qui est celle du football.
Ouais, mais
et ses supporters, en fait. Moi,
je te citerai bavard, Vivian, et je propose que tu réfléchisses à cette question pendant une virgule musicale.
D'accord.
Et après, tu laboures, quoi.
Ouais.
Ok.
Donc après la pause, je football
enfin,
et
tu laboures en un mot, hein.
Je ferai ça, oui. Ça va trop loin.
Et du coup, vas-y, lequel on part sur quoi?
On peut mettre un rappeur qui vient du même quartier que moi, Médine.
Ok. La puissance du port du Havre.
J'étais sans voix.
Junior à la poitre zamé. Il peut y avoir qu'une seule beba dans la city d'Edouard Philippe. Comme y'aura qu'un seul doudou, c'est mon daron, pas le maire ni le ministre. On participe pas à leur victoire, on va s'asseoir dans le jury. Je te souhaite la bienvenue au Havre, autrefois appelé Francisco Police. On m'a circoncié dans un immeuble, enterré mon prépuce sous l'herbe. Je croyais que Michael Jackson dans Billy parlait de mon Cléon Bilel. Puis j'ai appris que j'étais coloré, que les Havrais n'avaient pas collaboré, que le Bédo transitait par les douaniers et que le Bédo CB c'était Bolloré. Océane, Viking, je me garde en bataille sur le parking. Les skins sont partis, on les a chassés dans les 90s. Ici on aime tellement pas les balances qu'on veut pas être témoin de mariage. Leur ville est faite en faïence, c'est la ville du Havre est faite en marbre.
Ma ville et moi en vrai on est les mêmes, on s'est fait bombarder pendant la guerre. On est pris pour les plus laids dans la presse, on vit entre le béton et la mer. Entre le patrimoine et les quartiers délabrés, mon cul est international, mais mon petit cœur est havré.
La puissance du port du Havre, la puissance du port du Havre, c'est la puissance du port du Havre, la culture de la bicrave. La puissance du port du Havre, la puissance du port du Havre, c'est la puissance du port du Havre, la culture de la bicrave. La puissance, la puissance, la puissance du port du Havre. La puissance, la puissance, la puissance du port du Havre. La puissance, la puissance, la puissance du port du Havre. La puissance, la puissance, la puissance du port du Havre.
Alphonse Mendy, c'est pas Alphonse Brand. Je te monte en l'air, grosse mise à l'amende. Sur le blason, c'est la salamande. Rien à foutre que le dessin judiciaire me ressemble. De toute façon, je reconnais pas l'infraction. Sur le PV, je signerai un autre nom. Si tu joues les gros poissons ici, tu vas finir par devenir de la nourriture à poisson. Quartier, en deuil. On a perdu un rider. Docker, dans le fleuve. C'est la saison de The Wire. Et les rodéos de Baltimore. J'aime quand les vagues frappent l'Atlantique Nord. On reçoit la coque sous blister. Belle et que les SP collent pas de traceurs.
Ma ville et moi en vrai on est les mêmes. On s'est fait bombarder pendant la guerre. On est pris pour les plus laids dans la presse. On vit entre le béton et la mer. Entre le patrimoine et les quartiers délabrés. Mon cul est international, mais mon petit cœur est havré.
La puissance du port du Havre.
La puissance du port du Havre, c'est la puissance du port du Havre. La culture de la bicrave, la puissance du port du Havre. La puissance du port du Havre, c'est la puissance du port du Havre. La culture de la bicrave, la puissance, la puissance, la puissance du port du Havre. La puissance, la puissance, la puissance du port du Havre. La puissance, la puissance, la puissance du port du Havre. La puissance, la puissance, la puissance du port du Havre.
Alors toi, tu supportes le Stade Rennais, c'est ça ?
Exact, ouais.
Ma question sera très simple, pourquoi ?
Bon, c'est très simple, là, ça remonte à 2002, quand le quart de l'équipe a renversé mon père. Coup de cœur immédiat.
Ouais, 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 ouais ! C'est la Cité de France ici ! Pas d'Opinel, c'est pas l'Under !
C'est pas l'Under !
Akaï, l'Akaï !
C'est l'Akaï !
Tu me reconnais ?
Ouais, ouais, ouais.
C'est clash ! Pas d'Opinel, c'est pas l'Under ! J'suis en full Nike, paire de Jojo.
Paire de x3, paire de Jojo.
Me gratis, pêche, rien qu'elle consomme.
Rien qu'elle consomme, c'est une pute.
Y'a un clip polo sur les réseaux.
Oui.
C'est bien bon, c'est bien bon, c'est bien bon.
Wow.
C'est bien bon de baiser mon top.
Yeah.
Le charbon, le charbon, le charbon.
Wow.
Le charbon de baiser mon top.
Yeah.
Pas d'Opinel, c'est pas London.
C'est pas London, c'est pas London.
J'suis en full Nike, paire de Jojo.
Me
grade de zippet, on raconte tous les jours ce qu'on a fait dans la cage.
Gang.
On fait deux fois plus de bénéfices quand les clients fidèles viennent de toucher la cave. Quittant en scooter, baqué en Skoda, dans les écouteurs. C'est pas du combat, c'est pas du combat, c'est de la drill. Poseur en CP compagnie. J'suis dans une escorte profonde comme couplet de Medine. C'est les cités de France, on arrive en plein nourrice, donne pas la tétine. On arrache les portes aux mauvais payeurs qui se confient. Le paradis sous les pieds de ma mère, comprends que pourrais-je te piétiner. Pas d'Opinel, c'est pas London.
C'est pas London.
J'suis en full Nike, paire de Jojo.
Paire de x3, paire de Jojo.
Me gratis, pêche, rien qu'elle consomme.
Rien qu'elle consomme, c'est une pute.
Y'a un clip polo sur les réseaux.
Oui.
C'est bien bon, c'est bien bon, c'est bien bon.
Wow.
C'est bien bon de baiser mon club.
Yeah.
Le charbon, le charbon, le charbon.
Wow.
Le charbon de baiser mon club.
Yeah.
Pas d'Opinel, c'est pas London.
C'est pas London, c'est pas London.
J'suis en full Nike, paire de Jojo. Pas d'Opinel, c'est pas London.
London.
C'est pas les States, c'est pas
Compton.
C'est les cités de France en pétard.
Wow.
Et la peu froid vient des Dunkers. Passe au Jekyll, pêche ta dose. C'était le gun ou bien la rose. Téma, comment on pose.
Compact, ça pète, tout ça explose.
J'suis en transit, paille le avant, chap. Elle est sans fil, j'reçois son pétard sur Snapchat. Elle m'envoie son pétard. Il est aussi gros que le monde. Tout pour l'euro comme un blédard. Guette la fréquence, finis sur les sons. Pas d'Opinel, c'est pas London.
C'est pas London, c'est pas London.
J'suis en full Nike, paire de Jojo.
Paire de x3, paire de Jojo.
Me gratis, pêche, rien qu'elle consomme.
Rien qu'elle consomme, c'est une pute.
Y'a un clip polo sur les réseaux.
Oui.
C'est bien bon, c'est bien bon, c'est bien bon.
Wow.
C'est bien bon de baiser mon club.
Yeah.
Le charbon, le charbon, le charbon.
Wow.
Le charbon de baiser mon club.
Yeah.
Pas d'Opinel, c'est pas London.
C'est pas London, c'est pas London.
J'suis en full Nike, paire de Jojo.
Retour sur le Gémenin, c'est pas fini le morceau.
Tu as cru que le morceau était fini.
Mais oui, en plus je voulais faire une espèce d'introduction footballistique à la Thierry Sanfacho.
Pour faire un petit couplet là.
On est bien dans le frisson. Non, je vais pas y arriver clairement. Bah, toujours sur frisson, on est toujours en compagnie de Vivian Petit et de Jacques Josse pour les deux ouvrages sur les stades de... Enfin, n'importe quoi.
Sur les stades...
J'y connais tellement rien en foot que c'est difficile pour moi de trouver les mots.
Mais c'est parce qu'en Bretagne, il y a beaucoup de clubs qui s'appellent stades. Genre Stade Rennais, Stade Briochin, etc.
C'est ça, puis moi à part...
Stade Malherbe.
C'est pas en Bretagne.
Ouais, je sais.
Et bref,
sujet.
Ouais, non mais c'est stade.
Peut-être que Vivian, avant qu'on reprenne là où on en était, c'est à savoir.
On désannonce quand même. Je pense que t'as envie de parler de ce qu'on vient d'écouter.
Ouais. Bah le premier morceau, c'était Medine, donc c'est sur son dernier album. Le rappeur quand même assez connu, le rappeur du Havre. J'allais dire le rappeur normand, mais non, il y a aussi Orelsan. Et le deuxième, c'était Pirate. Ils sont tous les deux sur le même label, Dean Records. Ils viennent tous les deux du quartier de Cocrioville. Où j'ai grandi aussi, où ont grandi pas mal de footballeurs assez connus comme Vikash Dorasso, Edouard Mendy, Souleymane Diawara, Mamadou Niang. Et donc, le morceau de Pirate, le deuxième qu'on a écouté après Medine, c'est RS Drill 4. Ça fait partie d'une série de freestyle qu'il a fait dans le style de la drill qui est assez différent du rap de Medine.
Et donc, avant la pause, ce dont on était en train de parler, on en parlait anti en parallèle avec avec Jacques hors antenne sur la question lutte de classe et football ou capitalisme et football. Avant de parler justement de cette dimension on va dire de proximité qu'il peut y avoir entre joueurs et ou supporters, on va revenir peut-être deux secondes sur ce fameux propriétaire majoritaire, enfin actionnaire majoritaire du HAC, donc Vincent Volpe.
Ouais, qui est un homme d'affaires américain d'origine italienne, qui a notamment fait fortune dans le gaz de schiste, qui est l'ancien PDG de Dresser, qui a été revendu ensuite. Voilà, que dire, il assume tout à fait en privé de s'être jamais intéressé au football. Et il investit dans le football comme il investirait dans d'autres choses, en tant qu'homme d'affaires. Quand il est arrivé au Havre, il a rapidement dit que, évidemment, le but était de faire remonter le HAC en Ligue 1. Ça a mis une dizaine d'années, et c'est notamment intervenu à partir du moment où il a cessé d'être président et où il a délégué, donc un président délégué, un directeur sportif, etc. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient venus quand même évidemment pour faire du business, genre Roussier, le président du HAC, ou Mathieu Bodmer, le directeur sportif, qui est un ancien footballeur, ancien joueur de camp, du PSG, etc. Et donc ça changeait quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'est des gens qui étaient venus pour faire du business, mais qui s'intéressaient quand même vraiment au foot, qui avaient pour but de construire une équipe, de faire remonter le club en Ligue 1. Et aussi, ce qui a changé, c'est que c'est des gens qui savaient s'adresser à des supporters. Notamment Mathieu Bodmer, qui est un ancien joueur qui vient des classes populaires, qui est passionné par le foot. Donc quand il y a même maintenant 5-4 supérieurs, il a des très hauts revenus, etc. Il est encore de ce milieu-là, quoi, dans un certain sens, quand même ses revenus ne correspondent plus. Et donc ça a changé beaucoup de choses, à la fois dans le niveau de l'équipe, qui est remontée en Ligue 1, qui est maintenant plutôt bien parti pour se maintenir en Ligue 1. Ça a changé beaucoup de choses aussi dans le lien avec les supporters. Parce que quand Vincent Volpe n'était pas seulement actionnaire majoritaire comme aujourd'hui, mais était aussi président, et ben, il parlait du club seulement comme une entreprise. Alors que pour les supporters, c'est un peu plus que ça. C'est aussi une histoire, c'est aussi un lieu de sociabilité, c'est lié à des associations, etc. Et quand il était président, par exemple, la direction du club n'allait plus dans les réunions du HAC et Intersport. Parce qu'il y a aussi un certain nombre d'associations du HAC, du Havre Athletic Club, d'autres sports qui sont des associations en fait. Et donc ça intéressait beaucoup moins. Le local des supporters, qui était un bar associatif, a été remplacé par un restaurant du club. Et la fédération des supporters a dû mener une lutte pendant un an et demi, deux ans, avant de finalement d'être relogé, etc.
Et toi, Jacques, en tant qu'expert justement du Stade Rennais, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les actionnaires propriétaires,
sur François Pinault,
sur notre cher François, cher amateur d'art et de foot, je ne m'abuse.
C'est François Pinault qui finance en grande partie le Stade Rennais. Ce sont toujours des grands financiers qui se sont appropriés, en fait, qui ont acheté les clubs. Des clubs qui pourtant ne peuvent vivre normalement que parce qu'il y a des supporters à la base et des supporters qui sont obligés quelquefois de se restreindre même dans leurs dépenses quotidiennes pour se payer des entrées au match.
C'est combien d'ailleurs une entrée, moi qui n'ai jamais foutu les pieds au Stade Rennais, ni encore moins au HAC, c'est combien un match?
Ça dépend vraiment des tribunes, des matchs, etc.
Mais la fourchette,
un abonnement pour une année dans la tribune la moins chère, qui est la tribune des supporters du COP, c'est une centaine d'euros pour l'année. Si on prend match par match, on a une place à partir de 15 euros quoi, pour un match.
Ouais. Alors après, bon, c'est devenu vraiment un business, puisque il y a les droits télé, il y a beaucoup de sponsors qui sont derrière, et puis il y a quand même aussi, on peut pas passer à côté de cette espèce de vente d'êtres humains quand même, puisque il y a des clubs qui s'approprient momentanément, c'est-à-dire pendant 2-3 ans, un joueur. Et qui après vont le revendre avec une plus-value. Et si un jour, malheureusement, ce joueur est blessé, ne peut plus jouer, et ben tant pis pour lui. Il sera hors course. Il n'aura plus de valeur marchande. Ça fait partie aussi du foot aujourd'hui. Hein. C'est C'est assez dramatique, je dirais, parce que...
Tu pourrais peut-être aller encore un peu plus loin en parlant justement de la question de l'origine sociale.
Voilà, enfin, la plupart viennent d'origine sociale très populaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que les supporters se reconnaissent dans les joueurs. À Lens, par exemple, les supporters, ils disent bah, nous, on en bave toute la semaine et on a notre chance, c'est d'aller voir le match. C'est un peu la fenêtre qui s'ouvre le week-end, quoi, pour se changer les idées, quoi. Mais la plupart, oui, des joueurs viennent vraiment du bas. Et puis aujourd'hui, on va les chercher beaucoup en Afrique, quand même. Hein, Et ils se retrouvent, comme tu disais, Vivian, ils se retrouvent à 12, 13 ans dans des centres de formation où ils sont dans un vase clos et où ce seront... Là, il y a une compétition terrible, c'est les meilleurs qui vont sortir et ceux qui ne peuvent pas en sortir, parce qu'ils ont, souvent des accidents ou ils n'ont pas le mental... eux, ils vont le laisser.
Mais c'est pour ça justement que la plupart des joueurs viennent des milieux populaires. Enfin, pour deux raisons, parce qu'à la fois le foot passionne dans les milieux populaires et que plein de gamins jouent au foot, évidemment. Mais aussi l'autre raison, c'est que il n'y a que dans les milieux assez pauvres où on va convaincre des parents de confier leur gosse pour qu'il soit envoyé à l'autre bout de la France en disant il y a une chance sur 50 pour qu'il en fasse son métier. Enfin, ouais. Évidemment, on dit ça à des parents bourgeois, ils vont dire ah bah non, en fait, on va plutôt le mettre dans un lycée privé et il fera une école de commerce.
Il jouera du tennis.
Moi, je réagis aussi à ce que tu décris dans ton livre, Vivian, c'est que pour moi, qui n'y connais rien, je le redis, un club qui rapportait de l'argent, c'était un club qui gagnait, donc qui passait à la télé, etc. Ce qui n'était pas le cas du Havre, ou en tout cas, voilà, c'est plutôt un club de seconde zone, si j'ai bien compris.
Plus maintenant.
Oui, non, mais sauf ton respect. Mais...
Ils battront Rennes dans une semaine, je suis sûr.
Oui, j'ai regardé le calendrier, justement.
Voilà, oui, il y a le Havre-Rennes dans une semaine.
Dimanche dans une semaine.
Mais voilà.
Ça fait de deux au match aller.
Ce que tu expliquais, en fait, c'est que... Il n'était pas nécessaire de gagner, d'être en haut du podium ou du tableau pour faire de l'argent. C'est-à-dire que une des spécialités du Havre, si j'ai bien compris, c'était de former des joueurs. Ouais. Donc il y a a priori une très bonne école.
Il y a beaucoup de clubs qui ont un centre de formation, mais ouais, qui gardent pas les joueurs.
Mais dès que les joueurs sont suffisamment bons, ils sont revendus.
Ouais,
et
ouais,
c'est ça le business. Ça a été ça le business.
Ouais, c'est encore ça, je pense.
Ouais, c'est Rennes, encore
Rennes
ça
aussi. Hein, c'est ça, hein.
Au grand désespoir aussi des supporters qui, ouais, eux, ont envie quand même de gagner de temps en temps.
Ouais, c'est clairement le modèle économique du club, parce qu'en fait, même, comme sur chaque marché, même entre les capitalistes, entre les entreprises, il y a des gros et des petits. Et les gros écrasent les petits. Donc, par exemple, le HAC, là, en Ligue 1, a des montants de droits télé très très faibles par rapport aux autres clubs qui se sont gardés le gros du magot. Et en ce moment, justement, le club prépare des recours en justice, etc., pour essayer d'avoir une plus grosse part, la part qui lui revient au niveau des droits télé. Et donc, chaque club est obligé d'essayer d'avoir son propre modèle économique pour éviter un déficit structurel trop grand. Et celui d'un certain nombre de clubs, dont le Havre, qui est un des meilleurs centres de formation de France, c'est en gros de détecter des joueurs soit dans les quartiers du Havre, soit dans les quartiers de banlieue parisienne, soit à La Réunion où il y a des partenariats, et d'en faire venir un certain nombre, et en espérant qu'une partie d'entre eux, et ça arrive, deviennent des très grands joueurs qui connaîtront un certain succès dans l'équipe du Havre vers 18-20 ans avant de rejoindre un très grand club à prix d'or quand le HAC revendra le contrat de ce joueur, pour ne pas dire revendra le joueur, et en négociant à la fois le montant du transfert et même le montant du pourcentage à la revente. C'est-à-dire qu'ils revendent à un club intermédiaire, et ensuite, quand ce club intermédiaire le revend à un très très grand club, le HAC peut négocier d'avoir 25% du transfert, par exemple.
Et quand je vous entends tous les deux faire une synthèse, excusez-moi de faire une synthèse peut-être un peu grossière de ce que vous étiez en train de dire sur le fait que finalement le football, c'est aussi l'instrument de maintien, on va dire, d'une certaine mécanisme de domination, ou en tout cas d'un certain principe de maintien et de développement des inégalités, que ce soit si l'on regarde du côté des joueurs, des jeunes joueurs et ou des supporters, supportrices, qu'est-ce qui vous fascine encore en ayant quand même conscience de justement toutes ces dimensions sociales, capitalistiques, de géopolitique, du sport. On n'a même pas encore abordé ne serait-ce que la question de la FIFA. Qu'est-ce qui maintient encore, j'ai envie de dire, un peu intact votre appétence pour ce sport-là, en tout cas pour cette culture au sens large du terme, cette culture du foot?
En fait, c'est bien plus compliqué que ça, parce que quand on est supporter ou quand on suit une équipe, on oublie certaines choses. On se met dans la peau de celui qui a besoin d'avoir un peu de rêve, un peu de quelque chose, quoi, dans son quotidien, et il suit l'équipe. Mais c'est très éphémère, cette chose-là. Mais très vite, on revient évidemment sur la réalité brute et qui est dure, quoi, hein, de ce monde. Mais il faut aussi considérer que on est dans le monde du spectacle, en fait. Les joueurs de foot, ce sont des acteurs du monde du spectacle. Ils sont payés pour ça, ils sont payés pour faire le spectacle avec des supporters qui vont payer pour les regarder, comme les chanteurs, comme tout. Ils ont une partition à jouer. Et quelquefois, moi, quand je regardais des matchs, c'était le côté esthétique qui m'intéressait. C'est-à-dire revoir un peu les beaux joueurs. J'avais vu Maradona, moi, il m'a fasciné, quoi. Ce bonhomme-là qui réussissait à... Il marquait avec sa main, la main de Dieu.
Et ça passait.
Et qui réussissait à se slalomer comme ça entre plein de joueurs.
C'était
et
la puis drogue.
Mais probablement, il y avait tout, oui, puisqu'il était aussi, il était un peu napolitain. Il est considéré comme un dieu. D'ailleurs, il y a des maradoniens aujourd'hui. Il y a une église maradonienne. Donc, ça veut dire, ces gens-là, ils deviennent presque des dieux, en fait. Alors, nous, en tant que supporters, même si j'ai du mal à me considérer comme un supporter, vraiment, je suis plutôt un spectateur...
Sympathisant
et qui garde de la distance. C'est-à-dire, je ne serai jamais chauvin, je serai... il gagne, il perd, bon, ben, à la limite, c'est comme ça, c'est la vie. Hein, et je vais pas être malheureux parce que l'équipe a perdu. Mais j'en connais qui sont malheureux parce que leur équipe a perdu.
Ah, il y en a, ça leur pourrit la semaine.
Il y en a, pendant la semaine, ils vont pas être bien. Il y en a qui mettent même toujours les mêmes habits pour aller au match parce qu'un jour, l'équipe a gagné alors qu'ils étaient habillés comme ça. Et ils sont un peu fétichistes, et donc ils vont continuer dans ce truc-là. Mais ça, c'est des choses qui dépassent
la raison. En fait. Mais c'est comme quand tu décris ces deux personnages dont j'ai oublié les prénoms, qui ont leur petit rituel, ces deux, on va dire, piliers de comptoir qui chaque avant-match, voilà, boivent leur trois demi, c'est
ouais,
ça.
Trois, parce que c'est des sortes de porte-bonheur. Mais ça, on connaît tout le temps. Hein, quand, par exemple, je me rappelle, il y avait eu un match Togo-France. Bon, le Togo, là, c'était les fétichistes qui étaient venus. Et donc, il y avait eu une ribambelle de coqs qui était passée à l'as, quoi, hein, parce qu'ils les avaient tués, quoi, parce que c'était l'emblème de l'équipe de France. Et il y avait les marabouts. Les marabouts étaient vraiment, ils croyaient. Il y en a même qui buvaient le sang des coqs. Hein, et d'autres qui allaient autour du terrain ou auprès des buts mettre du sang.
Ça me paraît normal.
Mais c'est ça le truc, c'est ça le foot. C'est-à-dire on dépasse l'entendement. Quelquefois on est dans l'irréel. Hein, quelquefois.
Parlant d'irréel, est-ce qu'on se ferait pas une nouvelle petite pause musicale?
Bah tiens, bah voyons.
Elle est pas mignonne cette transition.
Alors on part sur quoi là, Vivian?
Je propose d'écouter les City Kids par exemple, qui est un groupe de rock historique du Havre. Le groupe de rock du Havre qui a connu du succès avec Little Bob. On peut écouter un morceau de leur premier album, qui était un album live, sorti en 81.
C'est parti, City Kids. I'm a vagrant.
celebrate you. Better could have the comedy. Our risk is for you. Actors, 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 illusions. Actors, 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 illusions. Performance was a test. You kept missing your cue. Now you can't forget about the rest. I can see right through. Actors, 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 illusions. Actors, 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 illusions. Okay, I know life is a play, but it's so hard to live in this constant rerun. Every night, every day, I'd be wrapped in your illusions. I can see right through actors, actors.
Dans le frisson sur Canal B, il est 19h57. Waouh, déjà.
Tout à fait, mon petit Jean-Mimi.
C'est quoi de... Parce qu'on a déjà annoncé le premier morceau, mais il y a eu un deuxième, si
ouais,
je dis pas de conneries.
C'est un autre groupe à vrai. Enfin, en gros, c'est des musiciens originaires d'Evreux qui sont venus, qui ont migré au Havre. C'est Roadrunners. C'était sur l'album Bizarre Rendez-vous, qui est sorti en 91. Roadrunners, c'est pas un groupe très très connu nationalement, mais quand même, c'était pas rien.
Oui.
C'est 5 albums, plus de 1000 concerts. Ils avaient été notamment connus grâce à leur première partie de Little Bob dans les années 80.
Je les ai vus en concert à Caen à l'époque.
Ouais, ils ont vraiment fait énormément de concerts. Quoi. C'était vraiment un groupe de scène. Quoi.
Alors, on se proposait hors antenne
de faire un match. Non, pardon, n'importe quoi. Je vais couper mon micro.
Non, mais aussi de vous questionner sur l'objet littéraire, sur pourquoi écrire sur le foot. Bon, Vision, t'as reçu plusieurs fois. Tu as déjà écrit une saison à Gaza. Parce que Retour sur une saison à Gaza, mille excuses.
D'accord. D'ailleurs, c'est l'occasion. Je saisis ça comme prétexte pour dire que demain, à 14h, à Charles de Gaulle, il y aura la manifestation à la fois contre la loi immigration et contre les bombardements de Gaza. 14h, Charles de Gaulle, contre D'accord. Darmanin et Netanyahou.
Bah, le rendez-vous est pris.
Normalement, on dit l'abject Darmanin, si on veut être précis.
Et l'horrible Netanyahou.
Voilà. Donc, tu as écrit ça avant. Je crois que tu prépares d'autres choses. Tu nous as déjà dit à l'antenne que tu étais journaliste par ailleurs.
Ah
et
bon
toi,
j'ai dit ça.
Oui, tu l'as insinué.
J'écris des articles.
Ouais, voilà, tu écris des articles.
C'est pas une raison pour m'insulter de journaliste.
D'accord. Et Jacques, toi, tu... Alors, je ne suis pas spécialiste de Jacques, mais tu as écrit de très nombreux livres, beaucoup de poésie, si je ne m'abuse, des romans, et tu as aussi été éditeur.
Oui.
Et donc... Bon, vous nous avez expliqué chacun ce qui vous avait amené à écrire sur votre équipe de foot favorite, mais pourquoi ce besoin d'écrire en général et quelles sont vos trajectoires respectives, vos parcours? Jacques, peut-être, pour commencer.
Oui, j'écris depuis vraiment longtemps, hein, depuis la fin de l'adolescence, et vraiment... c'est devenu presque une seconde nature. J'ai besoin d'écrire. Et par exemple, pour ce livre, Christophe Fourvel, le directeur de la collection, m'avait dit « J'aimerais que la collection soit à la fois la mémoire collective et la mémoire intime. » Et moi, c'est vraiment ce sur quoi je travaille en règle générale. Toujours sur la mémoire collective. Et aussi... énormément un type à travers tout ça, quoi. Que ce soit le travail, que ce soit le hameau, que ce soit donc là le foot, mon père, les gens un peu perdu, que je vois, c'est même, je me sens très proche d'eux. Et c'est autour de ça que j'écris depuis toujours. D'abord, ça a été la poésie. Après, c'est devenu le récit ou des petits fragments de vie, des morceaux de vie, en fait. Des vies en morceaux aussi, d'ailleurs. Et j'ai toujours été autour de ça. Donc, voilà
mon... Et est-ce qu'il n'y a pas une dimension aussi un peu nostalgique ?
Si. Il y a vraiment... Et je suis rarement dans le présent. En travaillant sur la mémoire, on a un peu de retard à l'allumage par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qui se passe aujourd'hui, ce sera donc peut-être dans quelques années. Il y a toujours ce recul, en fait, entre la perception que je peux en avoir et la possibilité de l'écrire. J'ai besoin qu'il y ait cette mise à distance un peu, et c'est le temps qui met à distance. Donc ça peut paraître nostalgique, ça l'est. Ça l'est, mais pas, je pense pas dans le mauvais sens du terme, pas dire bon, c'était mieux avant, etc. Quoi. Non, c'est parce qu'il y a une maturation. Voilà. Et ça demande tout simplement du temps.
Ouais. Est-ce que ce temps-là, justement, entre les deux ouvrages que tu as publiés, qui ont été édités en tout cas aux éditions La Digitale entre 2004 et 2005, le premier De Passage à Brest et le deuxième, un an plus tard, Les Buveurs de Bière.
Ouais, en fait,
j'imagine qu'il y a un lien.
Oui. Et ben, Le Passage à Brest, c'était vraiment pour... Mon père est né à Brest, mon grand-père était à Brest. Et donc, il y avait toujours ce lien familial qui était là-bas. Et je suis parti sur les traces des écrivains qui ont sillonné Brest. Alors, Macorlan, Kerouac, Genet et bien d'autres. Hein. Et donc, je les ai suivis. Alors, Les Buveurs de Bière, c'est parce que j'aime beaucoup la bière. Hein. Et,
t'en veux une ?
Non, là, ça va, là. je voulais parler d'eux et un peu dans le... Hein, j'avais pris l'exemple des mangeurs de pommes de terre de Van Gogh, en fait. Et je me suis dit, bon, bah, je vais parler des buveurs de bière et puis aussi de toute l'histoire de cette bière là, qui vient de loin, hein, qui vient d'Afrique, qui vient d'Égypte, hein, et c'est la nuit des temps. Hein. Et c'était le fameux pain liquide à l'époque. Quoi, hein. Et tout le circuit de la brasserie à la pression, dans le café, en passant par les livreurs, en passant par ceux qui mettent en bouteille, en passant, et ça se termine au comptoir, quoi. Mais en circulant de pays en pays. Et y compris d'ailleurs chez les frères Korismaki, Alsaski, quoi, qui eux tiennent deux bars à bière là-bas, quoi, dans leur ville, quoi. Donc voilà, il y avait tout ça, quoi. Et puis, bon. Bon, alors les deux sont liés parce que je suis vraiment très touché par les ambiances des bistrots. Parce que pour moi, ce sont des lieux sociaux où il se dit des choses qui ne peuvent pas se dire ailleurs. Voilà. C'est une...
Tu parles à des convaincus, là.
Ah, ouais. C'est un peu... Je crois que le bar est notre seule et unique religion.
Et dans pratiquement tout, même dans ce livre-là, il y a des bars. Et dans tous mes livres, il y a vraiment des bars.
Ouais. Dans le tien aussi, Vivian. Moi, j'ai l'impression que dans ton parcours littéraire, il y a une dimension politique beaucoup plus affirmée.
Oui. Et
t'es un lutteur social.
je suis engagé politiquement. Enfin, oui, j'ai été rapidement membre d'associations. J'ai fait longtemps partie de l'association France-Palestine Solidarité. Je suis syndiqué à la CGT. J'ai été actif dans le soutien à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Oui, cela dit, en même temps, si par exemple j'écris des poèmes, si j'écris des récits, c'est qu'il n'y a pas que ça. Par exemple, le rap politique ou les chansons engagées, ça m'emmerde. J'ai pas envie, quand j'écoute une chanson, quand je regarde un film, d'avoir l'impression de lire un tract. il faut qu'il y ait un peu des deux, quoi.
Par exemple, Michel Sardou, t'aimes pas?
Non, j'aime pas Michel Sardou, et même dans les gens plus sympathiques avec qui je suis plus en accord politiquement, et j'ai pas envie de citer des noms parce qu'ils sont sympas.
Si, vas-y, balance.
Non, mais justement, par exemple, dans des chansons engagées, ce qu'on appelle le rap conscient, le rap antifa, etc. Si je vois un texte de rap et qu'en fait c'est un peu comme un tract, je me dis bon bah c'est limité quoi, autant faire un tract, développer une stratégie politique et le differ à l'entrée d'une entreprise ou d'une fac pour appeler à la manif quoi. Si j'écris par exemple des poèmes, des récits, c'est qu'il y a bien autre chose.
Ça peut être une stratégie politique de faire un morceau avec des slogans.
Ouais mais ça parfois quand même ça fait un peu fuir les gens quoi. Quand on devient sa propre caricature, quand on n'est pas capable d'émouvoir, quand on ne crée pas vraiment des récits, ou même par exemple la manière dont des militants font parler des œuvres en cherchant juste une grille de lecture idéologique, les œuvres qui sont acceptables, les autres qui sont critiquables. Ouais. Ça, je pense qu'il y a de quoi parfois faire fuir les gens quoi, quand on a un certain rapport à l'art. En tant que militant, qui est juste repoussoir, donc j'espère que c'est pas ce que je fais.
Non, moi, pour moi, c'est pas du tout ce que tu fais. C'est-à-dire que autant Jacques nous a parlé tout à l'heure du capitalisme dans le football et des conséquences du capitalisme dans le football, que c'est pas tellement présent dans ton livre. Il y a quelque chose de très sensible dans le rapport au passé, le rapport à la famille, et aussi. Je dirais la poésie aussi d'être supporter sans jamais aller voir. Alors que toi, Vivian, il y a une dimension politique qui est plus affirmée, ouais, plus présente, ouais. Mais qui n'est pas militante au sens tu ne balances pas un message binaire, quoi.
Ouais.
Non, c'est-à-dire que tout le schéma économique qu'il y a derrière, ça t'intéresse aussi beaucoup.
Oui.
Et quand tu parles du bar associatif
de la fédé des supporters, ouais.
Voilà, de la fédé des
local
supporters, etc. Tu t'expliques bien un mouvement économique qui écarte les amateurs du club progressivement, en tout cas qui les relègue comme on gentrifierait un quartier.
Ouais. Oui, en fait, ce que j'ai essayé de faire, je pense que j'ai essayé de faire plein de choses dans ce livre-là, et après j'ai du mal à écrire autrement. Par exemple, le livre que j'avais écrit sur Gaza est écrit à peu près pareil, c'est un sujet très différent, mais je passe d'un côté un peu témoignage à des moments, à un moment revenir sur l'histoire de manière un peu rationalisée, quoi, avec les grandes dates, qu'est-ce qui s'est joué politiquement ou économiquement à cet endroit-là. À un autre moment, m'arrêter, me dire mais pourquoi j'écris là-dessus, qu'est-ce qui, moi, intimement, me pousse à me questionner là-dessus. C'est pour ça, par exemple, qu'on parlait de la famille ou des questions qu'on se pose, de qu'est-ce qu'on garde ou pas de sa ville, de son milieu d'origine, de sa famille, à quel moment on marque une distance, à quel moment on y revient, on choisit de s'y rapporter, mais un peu différemment, etc. C'est aussi pour ça, je pense, que j'écris. C'est une manière de chercher à exprimer des questionnements autour de ça. Quand c'est trop affirmatif, je suis pas sûr que ce soit intéressant, quoi. Faut pas que ce soit trop dogmatique, sinon c'est plus littéraire. Et donc c'est ça que j'ai essayé de faire. Et donc ce que j'ai essayé aussi d'écrire et de décrire, c'est le rapport des classes populaires d'une ville à un club de foot. C'est-à-dire qu'un club, c'est pas juste une entreprise. Le football, c'est pas juste un divertissement où on serait totalement passif et sujet du propriétaire du club. C'est en partie ça, objectivement, à des moments. Mais c'est aussi une passion. Et une passion, c'est aussi autre chose, quoi. C'est un rapport à une sociabilité, un rapport à l'histoire. C'est des luttes, c'est un ensemble d'affects qui sont très, très contradictoires entre eux, très différents, etc. Et c'est tout ça que j'ai essayé de décrire en décrivant aussi des ambiances, en fait. Donc des ambiances très différentes. Et dans le livre, je raconte, à tel moment, je vais à la manif contre la réforme des retraites, puis je vais au stade, et à l'entrée du stade, des syndicalistes diffusent le tract, etc. Les discussions qu'on a ou pas au bar, etc. Donc c'est ça que j'essaie de décrire. Donc une description sociale, en fait.
Oui, voilà. Peut-être c'est un autre point commun de vos deux livres, c'est de relier l'intime au politique, ou en tout cas au plus collectif, plus global, plus sociétal.
Ouais.
Et les projets en cours, tu nous as dit, Jacques, tu tentais d'écrire sur ta mère.
Ah, mais là, je suis bloqué. Là.
Tu veux qu'on t'aide ?
Non,
on peut faire un atelier.
Notre bière, peut-être.
C'est vraiment très original et très rare. Un homme qui veut parler de sa mère et qui, à un moment, a des scrupules, doute et est bloqué.
Je suis bloqué.
C'est jamais vu dans l'histoire.
Moi, ça part tout seul. J'arrête pas de la bitcher sans arrêt.
Non, non, après, il y a d'autres projets, hein, heureusement. Hein, c'est,
D'accord.
Oui, oui, j'ai un projet qui est fini, d'ailleurs, sur un récit. Alors, c'est assez triste. Ben, ça a à voir avec la bière aussi, si on veut. Parce que, mais une autre bière, hein, puisque c'est sur un gardien de cimetière. Hein, donc,
ah, ok.
D'accord. Sur de la mise en bière.
Sur une autre bière.
Et qui part en retraite et puis qui raconte un peu son histoire. Quoi.
Une fiction ou une...
C'est une fiction qui est basée sur de la réalité. Hein. Je prends c'est le cimetière du Nord que j'ai pris comme exemple. Donc j'ai fait pas mal de virées là-bas.
Sympa.
Oui, mais en fait c'est assez sympa. Il y a des tombes assez particulières aussi. J'ai vu en particulier la tombe d'un chanoine. Elle est à moitié défoncée d'ailleurs, cette tombe. Et il y a plein de bouchons et de capsules de bière sur cette tombe, parce qu'il était, paraît-il, réputé pour soigner les alcooliques. Okay. Et donc, il y a des gens qui viennent toujours verser des bouchons.
Vous savez ce qu'il nous reste à faire dimanche, les mecs ?
Voilà. Et évidemment, les gardiens, enfin pas les gardiens, mais les employés du cimetière nettoient régulièrement. Et j'ai aussi vu une tombe de la Sainte au Pochon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler.
Là,
on s'éloigne.
Tu nous éclaires.
Et la Sainte au Pochon, ce sont des gens qui sont malades. Et comme cette Sainte au Pochon a été mise d'un cimetière à un autre, alors que ça faisait plus de 100 ans qu'elle était morte, et quand ils l'ont déterrée, ils ont vu qu'elle était intacte. Ils ont dit, là, il y a un truc qui est bizarre.
L'alcool conserve.
En fait, elle n'est pas morte.
Ça la conserve. Et donc, les gens pensent qu'elle a un remède, peut-être contre la maladie, contre la vieillesse, contre quelque chose. Et les gens malades, ils vont prélever un peu de terre sur cette tombe. Ils mettent cette terre pendant 9 jours, je ne sais pas pourquoi, contre leur poitrine. Hein, ils accrochent le pochon. Et après, ils vont remettre le pochon sur la tombe. Et cette tombe, il y a plein de pochons dessus.
C'est à ça que tu tiens ton petit teint de jeune fille, c'est ça, Jacques ?
Voilà, voilà. Et parce que moi aussi, je vais de temps en temps mettre mon petit pochon de terre là-bas.
Quoi, c'est bien que tu précises que c'est
l'avoir
de terre.
Après l'avoir porté. Et donc voilà, donc y a plein d'histoires. En fait, c'est pour montrer que le cimetière est très vivant.
Vivian, un oui. projet ?
Oui, je sors un recueil de poèmes dans les mois qui viennent.
Je ne connaissais pas cette corde à ton arc.
Si, c'est un recueil de poèmes qui s'appelle Amour citadine, qui est en rapport avec différentes villes et différentes rencontres, d'où le titre. Et chaque partie du livre est liée à un endroit. Et ça vous étonnera peut-être énormément, mais ça commence au Havre et ça termine à Rennes.
Il y a nous dedans.
Il y a pas.
T'as pas fait de poèmes sur nous, merde. Je suis déçu.
Et avec aussi des poèmes, ça passe par Gaza, par les pays baltes, Cracovie aussi. Et voilà, ça sortira dans quelques mois aux éditions Scribest.
Tu seras obligé de revenir pour en parler en plus, quoi.
Inch'Allah.
Musique.
Ouais. Alors, on enchaîne avec quoi?
Du Havre toujours.
Ouais, je propose d'écouter un costard pour deux, qui est un groupe que j'aime beaucoup, un groupe de chansons, qui après 20 ans de carrière se séparent. Là. Ils font leur dernier concert dans 3 semaines. Et c'est un groupe dont je cite le texte dans mon bouquin, justement. Une chanson qui décrit très bien le rapport à la ville, le rapport des classes populaires à la ville, et la manière dont la municipalité actuelle crée une ville pour les touristes.
Oh, Edouard, mon pote de droite.
Attention.
Ça s'appelle Mon Havre, dans Costard pour deux.
C'était gamin, c'était au rond-point. 5 pains au chocolat, 10 francs, c'était pas cher avant. C'était hier, c'était dans le funi. À 50 centimes, le premier patin de ma vie. C'était naguère aux nouvelles galeries. Je volais des violettes, délinquants, c'était chouette. De grâce, laissez ma ville où elle est, assez marée basse, assez ouvrier. De grâce, laissez-la tranquille dans sa manche quand elle boit la tasse. Laissez-nous la pluie, les tempêtes, le ciel gris. Gardez vos bobos. côté de l'autre, grâce laissée rouler les galets du Havre de paix. C'était aux marées hautes, c'était juin dans la rue, y avait de la couleur, de la musique dans nos rues. C'était avant et c'était géant d'être un lilliputien au coin de la rue d'antan. C'est encore chaque année au mois d'août fleuri le Havre et son corso. On est beau cul et c'est beau de grâce laisser ma ville où elle est, à ses marées basses, à ses ouvriers. De grâce laissez-la tranquille dans sa manche quand elle boit la tasse. Laissez-nous la pluie, les tempêtes, le ciel gris. Gardez vos bobos de l'autre côté de l'eau. De grâce laissez rouler les galets du Havre de paix. C'était aux marées hautes, c'était par coup de vent qu'on transportait la ville et ses habitants. C'était gamin, c'était du Roméa. Ma caboche pensait qu'une ville avait un papa. C'était juste hier, quand on avait encore des odeurs de marins qui montaient du quartier de l'heure. Mais c'est aujourd'hui que mon Havre s'enrichit de machines à sous, à claquer des RMI. T'es plus crado mon port, t'as même plus le droit de te saouler. Faut que t'ailles changer d'air, on est station balnéaire. De grâce, laissez ma ville où elle est, à ses marées basses, à ses ouvriers. De grâce, laissez-la tranquille dans sa manche quand elle boit la tasse. Laissez-moi la pluie, les tempêtes, le ciel gris. Gardez vos bobos de l'autre côté de l'eau. De grâce, laissez rouler les galets de paix. De grâce laissez rouler les galets de mon Havre de paix.
Ask
Oh non, c'est quasiment déjà fini. Il est déjà 20h21, on est toujours en compagnie de Jacques Josse et Vivian Petit. Vivian, c'était encore des morceaux de ton choix spécial, playlist spécial Le Havre.
Ouais, ce qu'on vient d'entendre, c'est Emmanuel Emo, c'est le morceau Askip. Donc Emmanuel Emo, c'est initialement un des purs produits du rock à vrai, qui a été formé au SEM, le Centre d'Expression Musicale, qui a formé toute une génération de rockers à vrai, dont lui, qui est dirigé d'ailleurs actuellement par le bassiste des City Kids. Et Manu ensuite s'en est petit à petit un peu émancipé ou distancié ou en traçant sa propre voie. Maintenant, par exemple, il vit à Paris, il chante en français, il va parfois tirer vers la chanson française, etc. Et justement, ce morceau-là, il me semble, il fait un peu référence, quoi. La référence explicite dans le texte à « tu ne chantes plus en anglais », par Et exemple.
En fait, au Havre, vous êtes hyper bon en centre de formation.
Voilà, exactement. On a formé Vicage Dorasso et Emmanuel Emo.
Et Edouard Philippe.
Et Laurent Roquet.
Oh.
Ah merde.
Ouais. Et d'ailleurs, mais Emmanuel Emo est un des personnages de mon livre. Parce que c'est aussi un de mes amis. Et en fait, la saison dernière, au moment où le hack est remonté en Ligue 1, j'étais en train d'écrire le livre. Donc, c'était pas prévu, mais c'était même un peu bizarre de vivre un événement en se demandant au moment où on le vit comment on va le décrire. Et c'était même à la fois très intéressant et quand même un peu désagréable à des moments, quoi. Ça mettait une sorte de distance entre l'événement et moi, de vivre les choses en se disant ça peut faire une bonne scène, ça qu'est-ce que j'en fais, etc. Il n'y avait plus de spontanéité. Et comme j'étais en train d'écrire ça, j'en parlais beaucoup autour de moi, et donc ça suscitait un peu la curiosité d'un certain nombre de mes amis, dont certains n'étaient pas forcément fans de foot, mais à qui je parlais à la fois du projet d'écriture, à qui je parlais de l'histoire du club, et en plus il y avait les résultats du club qui étaient en train de remonter en Ligue 1, donc ça suscitait aussi une curiosité dans la ville. Et donc Emmanuel Emo, à ce moment-là, s'y est quand même pas mal intéressé. Et donc, je raconte dans le livre comment je vais au stade avec lui en lui expliquant un peu l'histoire du club, l'histoire des assauts de supporters, etc.
Mais pas Laurent Ruquier, tu l'as pas rencontré
pour
parler du hack.
J'ai pas eu cette chance. Par contre, quand Laurent Ruquier revient au Havre, il y a toujours un article dans la presse locale. Et suite à ça, ma mère me dit souvent, tu vois, Laurent Ruquier revient souvent au Havre voir sa mère.
Je pense que toi aussi, t'es peut-être fin prêt pour écrire un bouquin sur ta maman.
Non, je vais m'épargner ça.
De toute façon, moi, comme j'ai comme coutume de dire, dans Frisson, il n'y a que des numéros 10 dans ma team. Hein. Peut-être qu'on peut se faire un petit mot de la fin. Vous savez que vous ne le savez pas, mais Ludo et Guillaume savent que je suis obsédée de l'horloge. Et il est déjà 20h22. Peut-être un dernier doute, une dernière angoisse footballistique ou une errance, je ne sais pas, ou une critique capitaliste à nous formuler. Jacques ? Un cri
Non, je ne sais pas. Hein. C'est compliqué hein, d'improviser comme ça. Sur le foot, on n'a pas fait le tour de la question, loin de là. On a peut-être oublié une chose, c'est qu'est-ce qu'en pense le ballon.
Je suis d'accord avec toi, c'est vrai, bien apporter une dimension antispéciste dans le débat.
Je cite un moment Georges Perros, qui est écrivain de Douarnenez, et qui, lui, faisait des commentaires de match sur le Télégramme, de temps en temps, sous un pseudonyme, François Rosemeur. Et dans un de ses commentaires, il dit « Hier, le ballon était heureux. On lui tapait gentiment dedans, il allait d'un pied à l'autre, il ne sortait jamais, il n'était jamais boxé par le goal, et il a mené sa danse pratiquement toute l'après-midi, en restant sur le terrain. C'était formidable. »
C'est ça, Jacques. Toi, tu étais l'écrivain des laissés pour compte, des oubliés jusqu'au ballon du terrain de foot. Et c'est beau, il en faut pour être gauchiste. Vivian, un dernier doute, une dernière angoisse ?
Non, je ne sais pas exactement, mais... Enfin, tout à l'heure.
Si fait l'arbitre, qu'est-ce qu'il en pense ?
Vous serez où dimanche 11 février à 13h, le match Le Havre-Rennes ? Vous avez...
Je sais pas, moi. Moi, je serai pas au stade du Havre à ce moment-là. J'ai mes places pour d'autres matchs du Havre en février ou en mars. J'irai voir Nice ou Reims notamment. Et je me posais la question de savoir si j'ai envie d'aller le voir dans un bar à Rennes ou pas. Je suis pas sûr en fait.
Pourquoi
une expérience totale de la minorité, quoi. Seul contre tous, ce que j'ai envie d'y aller.
En tant que mec blanc, cisgenre, hétéronormé, je pense que ça te ferait pas de mal que d'aller te confronter à l'altérité.
Il y a des vrais.
Je pense que je me flagelle pas assez du simple fait d'exister, peut-être.
Dans quel bar, dans quel bar tu vas voir les matchs ?
Je vais souvent au Golden Gate Café.
Oui, tu le cites dans ton livre.
Ouais, qui est situé juste en face de Le Fire.
Ok.
qu'un petit bar justement avec une ambiance assez assez restreinte, des habitués, etc. J'aime pas forcément les ambiances pour les matchs de foot de gros clubs avec un
oui,
côté
c'est marrant,
usine, quoi.
Les petits bistrots où il y a justement ouais. les habitués qui sont là ouais. comme tu l'écris dans ton livre.
Et ouais, j'aime bien le bar chez Lily par exemple, qui est un peu le bar historique des Dockers où j'ai présenté mon livre d'ailleurs. C'est tout, souvent justement ce côté un peu petit comité habitué, etc.
Et dites-moi, à l'occasion de ce match hack
Rennes, oui.
ouais.
dans une semaine,
est-ce que vous n'avez pas envie de vous taper, enfin d'un combat singulier quoi?
On verra ça avec les hooligans à la fin du match.
en petit comité, parce que...
Je sais pas quoi répondre. Ouais. Non, ça va, non.
Oui, oui.
Vous voulez dire que vous avez réussi à vous débarrasser de ce versant de votre enfance sur l'apprentissage viril de la masculinité?
Non, mais il y a
c'est une vision un peu restreinte de la masculinité. La masculinité,
tu veux dire que j'ai un prisme,
ça, c'est pas que ça.
Il y a pas d'animosité entre les deux clubs, entre le HAC et le Stade Rennais. Autant il y a des clubs où il y a des animosités.
Ouais,
réel.
Là. Ouais, pas tant que ça. Il y a eu une époque, il y a 20 ans, un petit peu tendu, mais pas énormément. Et notamment parce qu'en fait, les deux clubs ont relativement peu joué l'un contre l'autre. Parce qu'en fait, le HAC revient en Ligue 1, alors que Rennes y est depuis un moment. Donc c'est aussi évidemment ça. Il faut des précédents pour qu'il y ait une animosité. Donc.
Puis peut-être qu'ils sont pas assez bons aussi, parce qu'on dit que généralement la compétition naît dans des environnements d'abondance, là où la solidarité se
fait. Non, ils sont très proches l'un de l'autre au classement. Ils sont très proches l'un de l'autre au classement.
Il y a deux points, c'est ça?
Ouais.
Bah, Rennes est devant.
Oui, mais Rennes a justement Rennes qui a des très bons clubs français qui disputent annuellement la Coupe d'Europe, elle a une saison relativement décevante, donc est en milieu de tableau. Et le HAC est de retour en Ligue 1, fait une très bonne saison et est vraiment à distance des dernières places et va sûrement rester en Ligue 1. Et donc il est à peu près au même niveau que Rennes, et ce qui est une contre-performance pour Rennes et une très bonne performance pour Le Havre.
Mm-hmm. Ah, les outsiders, mais comme Edouard Philippe.
Ouais, bah écoute, j'espère que ça,
Edouard Philippe,
j'espère que ça vous a donné, vous a envie de vous intéresser un peu plus à cette culture-là,
pratique ou
en
populaire.
Tout cas, ouais, cette pratique populaire, comme dirait l'édito de Guillaume. C'est vraiment le mot de la fin. Il est peut-être temps de se faire un gros cœur bisou, peut-être.
Tu t'annonces le dernier morceau, tu
Ouais, je propose d'écouter François 1er. Et donc François 1er,
il est pas mort.
Oui, c'est le fondateur du Havre d'ailleurs, François 1er. C'est pour ça que le morceau s'appelle Franciscopolis, donc la ville de François, qui était le premier nom de la ville du Havre. Mmh. Et d'ailleurs, on a écouté tout à l'heure un costard pour deux, dont le refrain est de grâce, laissez ma ville où elle est, parce que le deuxième nom de la ville du Havre, c'était le Havre de grâce. Donc voilà, c'est Franciscopolis de François 1er. Et d'ailleurs, le chanteur de François 1er, c'est l'ancien chanteur des Roadrunners.
Vous ne vous y trompez pas, vous n'étiez pas sur France Culture, mais vous étiez bien sur Canal B,
en fait,
dans Frisson.
Il y avait plein de groupes, mais en fait, il n'y avait que 5 musiciens.
presque.
Un grand merci.
Pour beaucoup, je chantais la même chose en anglais.
Un grand merci, Vivien, petit Jacques.
Vivien.
Oh,
avec un A. Ça fait 34 ans que je subis ça.
Je suis dyslexique. Et écoute, ça sera ta petite croix. Merci à toi. Merci pour les considérations pour le ballon aussi, dont on parle trop peu. Merci, Jacques. Et merci mes petits alcoolites, Guillaume, Ludo, on se retrouve pas la semaine prochaine.
Si, on se retrouve avec 4Z des Brestois qu'on a vu en concert il n'y a pas longtemps.
Exactement.
Ah mais oui, on sera là.
Je pensais qu'on serait
déjà sur les routes.
Non, ça sera le lendemain ça.
Tout à fait, et la semaine prochaine alors.
Cœur bisous.
Ouais, cœur bisous tout le monde. Ah, à
merci.
Bientôt.
Salut.
Merci de votre accueil. Il y a les mouettes du Havre.
Oh, c'est trop mignon.